steps up, throws for the end zone. Olsen, touchdown! Smith scores, and the Carolina Panthers win in overtime.
Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de votre Poundcast, l'émission proposée par Panthers FR, Guillaume au micro comme d'habitude, pour ce 46e numéro, un épisode au cours duquel on va malheureusement, vous commencez à en avoir un petit peu l'habitude, de revenir sur une défaite des Panthers, et un épisode, là aussi vous commencez à le savoir, que je vais avoir le plaisir d'animer avec Thomas. Bonsoir Thomas, comment vas-tu ?
Bonsoir Guillaume, bah écoute, on reprend un peu les habitudes de début de saison, ça va mais... Ça aurait pu aller mieux avec une victoire, mais bon, voilà, on est dans une dynamique de saison, on va dire.
Une victoire ou même déjà un match agréable à regarder, j'ai envie de dire, parce que on va pas se mentir, c'était pas le plus spectaculaire des matchs auxquels on a assisté hier. Alors des conditions pas idéales, hein, beaucoup de vent et clairement le jeu aérien allait être embêté à ce niveau-là, ce qui à la base était peut-être plutôt un avantage pour les Panthers, hein, puisque ça retrouvait, hormis la pluie, des conditions similaires au match qu'ils avaient eu face à Atlanta 10 jours plus tôt. Un match du coup très défensif, avec un score qui était encore de 3 partout en début de quatrième quart-temps. Au quatrième quart-temps, cela dit, Baltimore fait moins d'erreurs, Carolina commence à en faire une ou deux, et surtout les pay cash derrière. Un fumble de Chai Smith, deux interceptions de Mayfield, hein, notamment dans les cinq dernières minutes, et Baltimore qui au final en profite pour s'imposer 13-3. Alors un score peut-être plus serré que ce à quoi on s'attendait, mais l'essentiel est de repartir de Baltimore avec une défaite, chose que pour le coup on s'y attendait à peu près.
Ouais, non, totalement. Voilà, c'est une défaite en fait à laquelle on pouvait s'attendre dans la mesure où Baltimore a une équipe qui a un peu la dynamique inverse de la nôtre en termes de bilan à peu près. Voilà, c'est une équipe qui a des bons atouts, qui a des éléments pour avancer. Donc, ça n'a pas été en notre faveur très clairement sur ce match. On s'attendait peut-être on aurait peut-être pu attendre un score avec des scores beaucoup plus élevés, on va dire. Après, voilà, il y a aussi eu des facteurs extérieurs, voilà, avec le vent et qui était déjà pas évident en fait pour tout ce qui était au niveau du jeu de passe. Et justement, on va en parler un peu après. J'ai une petite remarque à ce niveau. Puis en plus de ça, il faisait froid. Donc, un match qu'on pourrait le qualifier un peu de purge bowl, très clairement. Ça a mis longtemps on est resté très longtemps à 3-0 puis à 3-3. Je pense que les fans dans les tribunes devaient un peu s'impatienter, comme nous devant nos écrans.
Ouais, parce que je crois que le deuxième field goal de Justin Tucker, il doit arriver à 8 minutes 30 de la fin. Donc, pour passer à 6-3. Donc, c'est dire que pendant plus de 50 minutes, on était à moins de 6 points en cumulé. Du coup, tu parlais du jeu aérien. Baker Mayfield était de retour aux commandes. Il termine la rencontre à 21/33 pour 196 yards et donc deux interceptions, comme je le disais tout à l'heure. Je pense que, je sais pas ton avis là-dessus, mais on peut peut-être arrêter maintenant, hein, l'expérience Baker Mayfield. Je pense qu'on a vu ce qu'on avait à voir et je suis pas sûr que ce soit sa prestation hier qui change la donne beaucoup par rapport à ce qu'il avait pu montrer en début de saison.
Ouais, totalement. Ben voilà, c'est quelque chose qui a été assez difficile en fait, dans la mesure où on pouvait s'attendre peut-être à mieux de la part de Baker Mayfield sur la saison. Après voilà, vu ce qu'il nous a montré les fois où il était titulaire, c'est très souvent de la passe détournée, de la passe interceptée. On sent qu'il a pas la confiance, enfin il a pas de confiance, ça se ressent dans son jeu. Donc voilà, globalement pas terrible, d'autant plus que je pense qu'il va devenir un peu intéressant de penser à arrêter un peu totalement l'expérience Mayfield, dans la mesure où il y a ce choix de draft conditionnel qu'on pourrait envoyer à Cleveland s'il dépasse 70% du temps de jeu, enfin 70% des snaps pris. Donc globalement, vu la production, ça devient un peu difficile d'envisager d'envoyer ce choix de draft. Autant, voilà, s'il avait fait une bonne saison et tout, qu'il avait joué plus longtemps, on aurait pu se dire, bon, allez, c'est un investissement pour le futur. Autant là, non, c'est assez difficile, on va pas se le cacher.
Ouais, je crois qu'il y a un petit peu de temps pour atteindre les 70% des snaps. Il doit être autour de 55-60 de mémoire à l'heure actuelle. Donc il y a un petit peu de marge, mais voilà, on sent quand même globalement que l'attaque avance moins bien avec Mayfield aux commandes que ça pouvait être le cas avec PJ Walker, tout simplement. Il y a notamment une connexion avec DJ Moore qui se fait pas. Il a été ciblé hier un petit peu en début de match et puis finalement plus rien après. Un petit peu mieux du côté de Terrace Marshall Jr. qui termine avec trois belles réceptions, mais pour le jeu aérien ça reste assez faible. Le gros point d'interrogation moi que j'ai sur ce match et la grosse surprise c'est de voir Deonta Foreman à seulement 11 courses. Lui qui sortait de presque 400 yards en 4 matchs. Très surpris, et c'est d'ailleurs un peu ce qui va être mon flop moi sur ce match, c'est ce play calling offensif avec 33 passes pour 17 courses dans un match où on le disait à 8 minutes de la fin, il n'y avait encore que 6-3. Donc c'est pas un match où effectivement tu te retrouves à être mené de 25 points et à être obligé de remonter vite le terrain avec un jeu aérien. Dans des conditions comme on le disait tout à l'heure, moi j'avoue que de voir deux fois plus de passes que de courses, j'ai pas compris.
Non, totalement, mais puis du coup je vais rebondir sur ce que je disais en début d'émission. Voilà, il fait froid, il y a du vent. On sait que c'est un match qui va être difficile à jouer à un point de vue aérien. Ben, là on se retrouve avec du 2 tiers 1 tiers en termes, voilà, 2 tiers 1 tiers sur la répartition entre passes et courses. Bah, on aurait peut-être pu porter un peu plus souvent le ballon, d'autant plus qu'on a Dante Foreman dont on parlait les semaines précédentes, qui est vraiment dans un bon état de forme. Donc ouais, un peu de l'incompréhension à ce niveau-là, surtout qu'on a un Baker Mayfield pas spécialement en confiance, donc ouais, ça aurait peut-être été bien d'équilibrer, on va dire, déjà un peu plus.
D'autant que je parlais de 400 yards en 4 matchs, faut voir que sur les 4 matchs, il y a la défaite à Cincinnati, où au final on s'est très vite tourné vers la passe et où il a dû porter le ballon quelque chose comme 6 ou 7 fois dans la rencontre. Mais si tu exclus ce match-là, c'est 3 rencontres à près de 120 yards. Donc il y avait clairement de quoi s'appuyer et j'ai pas du tout compris ce côté d'aller à tout prix vers la passe. Il n'y a pas eu trop de conséquences sur les 3 premiers quart-temps, mais comme je le disais, il y a deux interceptions en fin de match qui font très très mal. Une équipe des Panthers qui est restée dans le match quand même, alors grâce à sa défense, certes, mais aussi, c'est un peu le sentiment que j'ai eu, tu vas me dire si tu as eu le même ou pas, j'ai quand même vu un semblant du match comme contre les Buccaneers. Il y a quelques semaines de ça, où c'est plus l'équipe adverse qui faisait des erreurs ou des pénalités un petit peu bêtes qui permettaient aux Panthers de rester au contact. Parce que sans être flamboyante, l'attaque des Ravens avançait quand même, enfin, était un peu plus agréable et un peu plus entreprenante, je trouvais, quand elle était sur le terrain par rapport à celle des Panthers.
Non, ouais, totalement, totalement. Voilà, c'est, on en revient un peu comme tu disais, un peu comme sur le match contre les Buccaneers, dans le sens où c'est l'équipe adverse en fait des fois qui se déjoue entre guillemets un peu toute seule. Mais non, on a quand même, après voilà, on a quand même un peu des, on a des, en fait, enfin, quand on compare l'attaque et la défense, on se dit qu'on a quand même des meilleurs motifs d'espoir sur cette défense. C'était déjà un peu un constat de la saison dernière. Bon, ça dépend des postes, bien sûr, ça dépend des joueurs, mais globalement, enfin voilà, on a des joueurs qui sont en place, mais enfin voilà, ouais, c'est vrai qu'on retombe un peu sur le même constat, comme tu le signalais, que contre Tampa Bay, quoi.
Tu parlais d'une belle défense, alors c'est vrai, je te rejoins, il y a des belles individualités. Il y avait notamment le retour de Jeremy Chin, activé, enfin, qui a été activé juste avant le match. Après, moi, je me pose quand même quelques questions sur cette défense, dans le sens où je ne sais pas sur le long terme, et notamment la saison prochaine, ce que ça peut donner, parce qu'il y a quand même des profils assez atypiques, et je trouve qu'elle a été conçue et mise en place vraiment pour et par Phil Snow, j'ai envie de dire, avec tous ces joueurs un peu hybrides, ces joueurs avec des profils, comme je le disais, un petit peu pas originaux, mais en tout cas qui peuvent être multipostes, comme Jeremy Chinn par exemple. Et du coup, je ne sais pas ce que ça peut donner sur l'avenir. Est-ce que ça ne va pas être un peu compliqué de trouver un coordinateur défensif capable de s'adapter à cette défense? Ou alors, à l'inverse, est-ce qu'il va peut-être falloir ajuster quelques pièces pour que ce soit une défense, et je ne vais pas dire standard, mais qui puisse être plus à l'image de ce que cherchera le futur coordinateur défensif, si ce n'est pas à l'Holcomb?
Bah écoute, pour moi, oui, c'est vrai qu'on a des joueurs un peu atypiques. Après, pour moi, c'est pas spécialement quelque chose qui va être dommageable dans la mesure où, voilà, c'est des joueurs hybrides, c'est des joueurs qui ont des capacités sur plusieurs postes. Mais c'est des joueurs aussi qui vont être très bons sur un poste en particulier. Donc globalement, je me fais pas trop de soucis. Je me dis, bon, c'est sûr que quand on va avoir un coordinateur défensif qui va débarquer, il va arriver aussi un peu avec sa philosophie de jeu. Nécessairement, il va y avoir des ajustements. Donc, ouais, on a peut-être quelques pièces qui vont bouger à droite à gauche, mais globalement, je pense qu'on a quand même des éléments sur la colonne vertébrale de la défense, quoi.
Ouais, il viendra peut-être juste ajouter quelques pièces de ci, de là. On en parlait la semaine dernière. Hein. Je pense qu'un inside linebacker, ça ferait beaucoup de bien dans cette défense.
Ouais, très clairement. Ouais.
Tu parlais de pièces maîtresses. La ligne défensive a quand même été solide sur ce coup-là, notamment avec le jeu de course des Ravens bien tenu. Ça inclut Lamar Jackson. Et à l'image de cette ligne défensive, moi, ce qui a été mon petit top, ça a été difficile d'en trouver un, mais c'est cette interception de Brevin Roy. J'aime beaucoup quand les linemen intérieurs réussissent une interception. Et puis bah là, voilà, son grand sourire, il était tout content. Et puis c'était un moment du match où voilà, c'était assez tôt dans la rencontre. Il y avait encore tous les espoirs étaient encore permis, on va dire. Donc ça m'a fait plaisir. J'étais content pour lui. Mais c'est vrai que dans l'ensemble, la prestation défensive de Brevin Roy et de ses copains était quand même appréciable.
Ouais, très clairement. Non, c'est ça. Je te rejoins et puis je fais un petit commentaire sur ce match. Mais enfin, globalement, j'ai pas spécialement fait de top flop sur ce match parce que ben c'est un match où globalement on a eu assez peu de matière à discuter. L'idée c'est pas non plus de tirer à boulet rouge sur des joueurs sur qui on a déjà pu tirer dans la saison, mais ouais, non, franchement je te rejoins totalement sur l'interception de Roy. Voilà, c'est toujours un peu particulier, voilà, de voir ces grands gabarits faire des interceptions. C'est un peu leur c'est pas leur spécialité, mais c'est toujours assez voilà, on sent qu'ils sont toujours un peu heureux quand ça arrive.
Surtout que dans le genre grand gabarit, Brevin Roy, il se pose un peu là. Ouais. Derrick Brown, il passe presque pour un freluqué à côté. Donc, c'est vrai que c'est un beau bébé. Il y a un joueur quand même qui est constant depuis le début, lui. Probablement le MVP des Panthers depuis le début de la saison. Hein, on le répète assez régulièrement. Alors, ça aurait pu être Derrick Brown. Mais je pensais plutôt à Johnny Ecker, qui a été, encore une fois, beaucoup mis à l'œuvre hier avec 6 punts. Je crois que son homologue des Ravens doit en avoir 7, donc c'est pour vous donner à peu près le niveau du match si vous ne l'aviez pas encore bien compris. Non, pas grand-chose d'autre à dire sur les équipes spéciales, hein, je pense, à moins que tu voyais un joueur particulier à mettre en évidence.
Non, ben voilà, globalement, c'est voilà, Ecker, notre cher punter qui pourrait mériter, je pense. La Ligue devrait penser à instaurer un MVP Most Valuable Punter, je pense que ça pourrait être pas mal. Et il aurait un peu sa place dans ce classement. Mais non, ouais, globalement, ouais. Heureusement qu'il est là cette saison, je pense que sinon, des fois, les scores seraient un peu plus, comment dire, vilains envers nous.
En tout cas, ça reste une des signatures les plus intelligentes de cette intersaison, c'est sûr. Mais je pense qu'avec tout ça, on a à peu près fait le tour hein, sur ce match.
Ouais.
Pas grand-chose à dire, hein, comme tu le disais. C'est vrai que c'était un match où les défenses ont plutôt pris le pas sur les attaques. Et ça, combiné avec les conditions, faisait qu'il n'y avait pas forcément beaucoup de conclusions, et a fortiori de conclusions nouvelles par rapport à ce qu'on a pu dire jusque-là. La nouveauté, ce sera peut-être le retour de Sam Darnold la semaine prochaine. On va commencer à se poser la question, parce que PJ Walker donc, est toujours a priori blessé, on ne sait pas encore s'il sera remis. Baker Mayfield, on ne peut pas dire qu'il ait franchement gagné des points hier, donc peut-être le retour de Magic Sam.
Ouais, j'ai envie de dire, quitte à se marrer, voilà, autant mettre Sam Darnold sur le terrain. Voilà, c'est, je veux dire, au point où on en est. Au point où on en est, on a vu ce que ça donnait avec Baker Mayfield. On a un PJ Walker qui est un peu blessé. Ça va être une question de forme pour savoir s'il joue ou non dimanche prochain. Mais voilà, globalement, ouais, voilà, c'est ouais, j'ai envie de dire, pourquoi pas du Sam Darnold, allez. Soyons fous.
Moi, j'avais dit qu'il reviendrait après la bye week. Mais dans le même temps, je croyais que la bye week, c'était cette semaine et qu'on jouait les Broncos après. Donc, je me suis rendu compte de mon erreur hier. Mais donc voilà, peut-être un petit peu plus tôt. Alors, je ne sais pas, on verra. Les Broncos qui sont à 4-6, si je ne dis pas de bêtises. Ou 3-7. 3-7, les Broncos, pardon. Voilà, ça va être encore un match qui s'annonce pas forcément folichon. Parce qu'en plus, je crois que l'attaque des Broncos... C'est surtout ça qui pêche, donc la grosse défense des Broncos face à l'attaque des Panthers, ça va être sympa. Donc voilà, peut-être un petit 9-6, ou quelque chose comme ça. Donc voilà, mais en tout cas, est-ce que tu avais autre chose à voir sur ce match, quelque chose, un joueur en particulier que tu voudrais voir ou... Qu'est-ce que t'attends de cette rencontre ?
Non, je vais juste faire un petit commentaire un peu pour terminer. Voilà, nous, on sait qu'on finit le match du coup sur un 3-13, mais après être resté super longtemps à 3-3. Mais en fait, ce qui est assez drôle, c'est que dans le même temps, il y a eu la même physionomie de match pour du côté du Jets Patriots, justement pour faire un petit clin d'œil à Sam Darnold, où ils ont fini à 3-3. Voilà, ils se prennent un retour de punt en touchdown à la fin, mais c'est voyons, il faisait pas bon être supporter d'une de ces quatre équipes sur ce week-end parce que c'était un peu ennuyant, je pense.
C'était pas les plus beaux matchs en effet. On espère qu'on se trompera pour la semaine prochaine et que ce sera plus agréable à regarder. En tout cas, merci d'avoir enregistré l'émission avec moi.
Bah écoute, merci à toi.
Et puis merci à vous de nous avoir suivis comme d'habitude et on vous donne rendez-vous très prochainement pour une nouvelle émission. Ciao.
Ciao.